Vous écoutez, on lit pour vous.
13,6 millions de dollars destinés à des travaux n'ont pas été dépensés par des cégeps et des universités. Un texte de Zachary Goudreau, paru le 7 février 2025 dans Le Devoir. Une somme de 13,6 millions de dollars est retournée dans les coffres du gouvernement du Québec de la part de cégeps et d'universités qui n'ont pas dépensé l'entièreté des sommes mises à leur disposition en 2025 pour financer l'entretien et l'agrandissement de leurs bâtiments, a appris Le Devoir. En 2024, le gouvernement avait imposé pour la première fois à ses établissements un plafonnement des dépenses destinées, entre autres, à la réfection de leurs bâtiments et à l'achat de matériel. La décision avait soulevé un tollé dans le réseau collégial, nombre de cégeps affirmant s'être vu imposer une limite nettement inférieure aux dépenses qu'ils avaient prévues pour répondre à leurs besoins. On a établi des seuils pour mieux suivre les projets, pour mieux accompagner les cégeps et, surtout, pour s'assurer qu'on respecte les échéanciers et qu'on respecte les coûts des projets, justifie la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, en entrevue au Devoir. Elle affirme d'ailleurs que cette mesure a porté ses fruits. Jusqu'à maintenant, 13,6 millions de dollars que des cégeps et des universités n'ont pas été en mesure de dépenser sont retournés dans les coffres du gouvernement malgré le plafond qui leur avait été imposé pour l'année 2024-2025. De ce montant, 6,3 millions de dollars ont été récupérés auprès de cégeps sur des investissements destinés à leurs infrastructures plafonnées à 291,5 millions pour l'année. Ça veut dire que des cégeps n'utilisent pas l'enveloppe au complet de ce qu'on leur a permis d'utiliser pour plusieurs raisons. Parfois, les projets ne sont pas prêts ou ils sont repoussés dans le temps pour mille et un facteurs, souligne la ministre. « Il n'y a pas trop d'argent dans le réseau collégial », réplique la présidente directrice générale de la Fédération des cégeps, Marie Montpetit. Elle voit plutôt dans ces sommes retournées à Québec une conséquence des « perturbations dans la planification des projets », occasionnées par le plafond imposé par le gouvernement. Pascale Derry promet pour sa part que cet argent retourné à Québec sera redistribué dans le réseau collégial au cours des prochaines semaines afin de financer certains projets jugés urgents. De nouveaux plafonds. La ministre précise d'ailleurs que des seuils d'investissement ont été récemment communiqués au cégep pour les trois prochaines années afin de faciliter le travail de planification de leurs projets d'entretien et d'agrandissement. Québec vient ainsi répondre à une doléance de la vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc, qui constatait dans un rapport produit en mai dernier qu'il est actuellement difficile pour les cégeps de planifier des travaux sans être assurés qu'ils auront le financement pour les exécuter. C'est un changement de culture important qu'on essaie d'opérer actuellement. Les collèges n'étaient pas habitués à avoir des seuils, mais ça nous permet de nous assurer d'avoir des projets mieux ficelés, de mieux accompagner les cégeps et de nous permettre à nous aussi de prévoir ce qu'on intègre au plan québécois des infrastructures, ce qu'on priorise, souligne la ministre. Madame Montpetit salue la décision de Québec de fournir une meilleure prévisibilité aux établissements quant aux sommes qui seront à leur disposition dans les prochaines années. Mais il faut que le financement disponible soit rehaussé significativement si on souhaite collectivement remédier au déficit de maintien d'actifs des cégeps, dit-elle. Autrement, ça va nécessairement entraîner la réalisation de moins de travaux dans les années à venir, au sein du réseau collégial, dont les infrastructures vont continuer de se dégrader, prévient la PDG de la Fédération des cégeps. C'était 13,6 millions de dollars destinés à des travaux n'ont pas été dépensés par des cégeps et des universités, un texte de Zachary Goudreau paru le 7 février 2025 dans Le Devoir.
Le cerveau contient une cuillerée de microplastique. Un texte de Jean-Benoît Legault de la presse canadienne, paru le 7 mars 2025 dans La Presse. Le cerveau humain contient en moyenne une cuillerée de microplastique et de nanoplastique, et on ne peut pas exclure que cela ait un lien avec l'explosion des cas de démence, prévient une nouvelle étude américaine. Cette quantité est de 3 à 5 fois plus élevée chez les individus qui ont reçu un diagnostic de démence. Pire encore, on retrouve de 7 à 30 fois plus de microplastiques et de nanoplastiques dans le cerveau que dans n'importe quel autre organe. Les quantités de particules retrouvées dans le cerveau du patient n'étaient pas associées à l'âge au moment de son décès, à son sexe, à sa race ou à sa cause de décès. Ces particules étaient particulièrement infimes, mesurant moins de 200 nanomètres. Les chercheurs ne comprennent pas pourquoi on retrouve une si grande concentration de microplastiques et de nanoplastiques dans le cerveau, ni pourquoi le cerveau semble attirer principalement des particules composées de polyéthylène. Ces résultats soulignent la nécessité de mieux comprendre les voies d'exposition, les voies d'absorption et d'élimination et les conséquences potentielles pour la santé des plastiques dans les tissus humains, en particulier dans le cerveau, résument les auteurs. On a constaté une hausse alarmante de 50% des concentrations de microplastiques et de nanoplastiques dans le cerveau entre 2016 et 2024, a souligné le docteur Nicolas Fabiano, ce qui correspond à l'explosion exponentielle de la quantité de particules de plastique dans l'environnement. C'est stupéfiant de retrouver ça aussi dans le corps des patients, a dit le docteur Fabiano, à qui on a demandé de diriger la rédaction d'un commentaire de l'étude américaine. Il se réjouit toutefois du manque de corrélation entre l'âge et l'accumulation de microplastiques, ce qui laisse supposer que l'organisme dispose de mécanismes pour les éliminer, a-t-il dit. En revanche, poursuit le docteur Fabiano, on peut logiquement supposer que s'il y a des quantités importantes de plastique dans le cerveau, que cela aura des implications pour la santé mentale. Je pense que cette étude est très importante, parce qu'elle ne se contente pas de suivre l'évolution du plastique dans le cerveau et dans divers organes, mais qu'elle commence à la relier à des applications potentielles en matière de santé mentale, a-t-il indiqué. Les particules de micro et de nanoplastiques proviennent de la dégradation d'articles de plastique plus gros. La taille des microplastiques va d'un micromètre, soit un millionième de mètre, à environ 5 mm. On mesure la taille des nanoplastiques en milliardièmes de mètre. En guise de comparaison, la circonférence d'un cheveu humain est d'environ 70 micromètres. Les particules de nanoplastiques sont tellement infimes qu'elles peuvent entrer dans la circulation sanguine, par exemple, en franchissant la barrière intestinale, et se rendre directement aux organes. L'impact sur la santé humaine de ces particules est encore mal compris, mais elles interfèrent possiblement avec le fonctionnement de certains organes, dont le cerveau, et avec celui du système reproducteur. Elles pourraient aussi avoir des propriétés cancérogènes, être une source de stress oxydatif et imiter l'action de certaines hormones, ce qu'on appelle des perturbateurs endocriniens. D'autres études les impliquent dans des maladies inflammatoires de l'intestin. On sait aussi que les microplastiques peuvent causer de l'inflammation, ce qui aura pour effet d'ouvrir des barrières cellulaires qui resteraient autrement fermées, des barrières comme la barrière hémato-encéphalique censée protéger le cerveau des indésirables. Des études ont aussi montré que plusieurs autres molécules peuvent se lier au plastique, comme des polluants, des pesticides, des hydrocarbures ou des métaux, puis être transportées par les microplastiques vers certains organes. Les microplastiques permettent essentiellement à ces substances de contourner les systèmes de défense de l'organisme pour en infiltrer les moindres raccoins. Il est toutefois possible de s'en protéger, du moins partiellement, prévient le docteur Fabiano. Par exemple, le simple fait de délaisser l'eau embouteillée pour l'eau du robinet pourrait voir notre ingestion de microplastique passer de 90 000 particules par année à 4 000 particules par année, a-t-il souligné. L'eau embouteillée peut, à elle seule, représenter une exposition annuelle aux particules de microplastique équivalente à l'exposition générée par toutes les autres sources combinées. Il recommande aussi d'abandonner les contenants de plastique au profit des contenants d'acier ou de verre pour entreposer et ou réchauffer la nourriture. Les aliments ultra-transformés peuvent aussi être une source importante et souvent insoupçonnée d'exposition aux microplastiques et aux nanoplastiques, rappelle le Dr Fabiano. Par exemple, si on compare des pépites de poulet à des poitrines de poulet, les pépites contiennent 30 fois plus de microplastiques, a-t-il dit. C'est une différence considérable. L'alcool, les fruits de mer et les pochettes de thé peuvent aussi être une source d'exposition à ces particules, a-t-il ajouté. À un autre niveau, l'utilisation d'un filtre à air de haute intensité pourrait aider à éliminer les particules en suspension, a souligné le Dr Fabiano. Ce qui nous ramène à des répercussions potentielles sur la santé mentale, a-t-il conclu, à un moment où on constate en parallèle une montée fulgurante de la consommation d'aliments ultra-transformés et une explosion des cas de troubles de santé mentale comme l'anxiété et la dépression. Il n'y a pas de recherche qui permette de faire le lien entre ces deux choses du point de vue des microplastiques, mais il y a des recherches qui permettent de faire le lien du point de vue des aliments ultra-transformés, a-t-il rappelé. Une exposition importante aux microplastiques pourrait se faire par les aliments ultra-transformés. Ce que nous mettons dans notre corps n'affecte pas seulement notre santé physique, mais aussi notre santé mentale. Les conclusions de cette étude ont été publiées par la revue Nature Medicine. Le commentaire du Dr Fabiano et de ses collègues se retrouve dans le journal médical Brain Medicine. C'était « Le cerveau contient une cuillerée de microplastique », un texte de Jean-Benoît Legault de la Presse canadienne, paru le 7 mars 2025 dans La Presse.
Trump pourrait vraiment nous rendre malades, un texte de Philippe Mercure, paru le 19 février 2025, dans La Presse. Trump vous rend malade? L'expression pourrait bientôt devoir être prise au sens littéral. On parle beaucoup des impacts économiques de la nouvelle administration américaine, mais celle-ci risque aussi de fragiliser un autre secteur crucial, la santé publique. Et le Canada pourrait en subir les contre-coups. En tant que Canadien, on est extrêmement concerné. On est voisins, on partage une frontière tellement grande. Les virus, ça n'attend pas les visas pour traverser. La liste des raisons d'être inquiet s'allonge presque chaque jour. On sait que les États-Unis se sont retirés de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, et ont sabré les budgets de l'USAID, une agence qui fait notamment la promotion de la santé dans les pays en voie de développement. Mais à l'intérieur même des États-Unis, les agences de santé publique se retrouvent aussi dans le tordeur de Donald Trump et de ses acolytes. Vendredi 14 février 2025, la moitié des détectives des maladies des Centers for Disease Control and Prevention, CDC, ont été remerciés par l'Agence de l'efficacité gouvernementale DOGE d'Elon Musk. Ces agents surveillent la progression des maladies infectieuses. Qu'on ne comprenne pas leur utilité vitale après la pandémie qu'on vient de vivre dépasse l'entendement. En tout, environ 1300 personnes ont perdu leur boulot au CDC. Pendant de longues semaines, le gouvernement américain a empêché les CDC et d'autres agences de santé américaines de diffuser toute publication scientifique, dont des rapports qui auraient permis de suivre la progression de la grippe H5N1 qui frappe volailles, animaux et même humains. Les rapports ont repris depuis, mais les dirigeants dénoncent l'ingérence du politique dans leur contenu. L'administration Trump a aussi sabré 1 500 emplois au National Institutes of Health, NIH, l'agence fédérale américaine responsable de la recherche médicale, et tenté d'amputer ses politiques de financement, une mesure temporairement bloquée par les tribunaux. L'influence de Robert Kennedy Jr., cet anti-vaccin nommé à la tête du département de la santé américain, se fait aussi sentir. La Louisiane a déjà déclaré qu'elle cesserait de faire la promotion de la vaccination de masse, et ce, alors que plusieurs épidémies de rougeole frappent le territoire américain, dont une particulièrement préoccupante, au Texas. Or, il n'y a pas que les marchandises qui circulent entre le Canada et les États-Unis. C'est aussi le cas des gens et des microbes qu'ils portent. Se retrouver à côté d'un bassin de 335 millions de personnes où la santé publique est devenue l'ennemi des politiciens nous met à risque. Le proverbe « Quand les États-Unis toussent, le Canada attrape la grippe » doit désormais être pris au pied de la lettre. Ça nous fragilise. Ça met notre santé peut-être pas en danger, mais plus à risque. Et je ne suis pas sûre que les gens en réalisent les conséquences, dit la docteure Liu. À Québec et à Ottawa, les responsables de santé publique sont réticents à commenter officiellement la situation. Ni l'Institut national de santé publique du Québec, l'INSPQ, ni l'Agence de santé publique du Canada n'ont voulu m'accorder d'entrevue. C'est vraiment préoccupant, m'a toutefois confié une source bien au fait des enjeux. Les coupes peuvent avoir des impacts sur les capacités de santé publique à effectuer la surveillance des maladies, à détecter les éclosions, à répondre aux urgences. C'est sans compter la prévention, l'information, la production de connaissances. Ça touchera d'abord les États-Unis, mais aussi le Canada par ricochet. L'idée n'est pas de semer la panique. Les impacts de l'affaiblissement de la santé publique américaine ne se feront pas sentir demain matin. Ça va se faire sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, estime Joanne Liu. Celle qui dirige le Pandemics and Health Emergencies Readiness Lab de l'Université McGill juge toutefois qu'il faut se préparer. Je ne sais pas quel est le plan au niveau canadien. Est-ce qu'on travaille sur un renforcement de la surveillance? Est-ce qu'on est dans un état d'urgence? J'espère qu'ils sont en train de préparer un plan Marshall par rapport à ça. Mais j'y crois peu, dit Joanne Liu. Je répète que l'Agence de santé publique du Canada a refusé toute entrevue à ce sujet. La docteure Liu estime qu'une bonne façon de nous préparer serait de renforcer notre couverture vaccinale. Il faut sensibiliser en sachant que les gens ne sont pas très enclins à entendre ces messages parce que ça leur rappelle la COVID-19. Et je peux très bien le comprendre. J'ai beaucoup d'empathie pour ça, dit-elle. Elle souligne qu'on devrait justement commencer les efforts alors qu'il n'y a pas d'urgence, afin de ne pas mettre de pression sur la population. Certains effets des décisions américaines pourraient être indirects, mais bien réels pour le Canada. L'un des programmes actuellement en danger est l'initiative PEPFAR contre le VIH en Afrique, qui a permis de sauver pas moins de 25 millions de vies. Son arrêt viendrait saboter des décennies de progrès contre cette maladie si difficile à vaincre. Il y a déjà des cliniques qui ont mis la clé sous la porte au Ghana, en Afrique du Sud, souligne la docteure Liu. Ça va augmenter le nombre de gens qui vont contracter le virus. N'allez pas croire que ça nous épargnera. il y a 110 000 vols internationaux chaque jour. Ça veut dire des millions de personnes qui traversent les frontières. Si ça augmente là-bas, ça va finir par augmenter chez nous, dit la spécialiste. Les économistes l'ont répété. Donald Trump se tire lui-même dans le pied en déclenchant des guerres économiques avec ses partenaires. Il fait la même chose en s'attaquant à ses propres agences de santé, une approche incroyablement irresponsable. On peut dénoncer cette absurdité, mais il faut aussi se préparer à ses conséquences. On le fait sur le front économique. Sans dramatiser ni paniquer, on souhaiterait voir la même réactivité en santé. C'était « Trump pourrait vraiment nous rendre malades », un texte de Philippe Mercure, paru le 19 février 2025 dans la presse.
La vraie fausse vie de Mado Lamotte, un texte de Frédéric Charret, paru le 21 février 2025 dans Virage. Dans un nouveau spectacle, l'exubérante drag queen Mado Lamotte raconte sa vie colorée en monologue et en chanson. Pour son créateur, Luc Provost, c'est l'occasion de faire un bilan du long parcours de la « bitch joyeuse » à qui il donne vie depuis près de 4 décennies. Citation. C'est un best-of de la vie de Mado, explique d'emblée le comédien au sujet du spectacle qu'il présentera dans plusieurs villes de la province. Au début, Mado était trash. C'était normal. Elle performait dans des bars underground et puis c'était la mode dans les années 80. Je l'ai peaufiné, je l'ai assagi, j'ai changé son vocabulaire, je l'ai rendu un peu plus madame. Fin de citation. Si l'image d'une drag queen pouvait choquer à l'extérieur de la communauté gay, Mado Lamotte a trouvé le moyen de s'adresser de plus en plus au grand public. Brisant des tabous au passage, la plus kitsch des calleuses de bingo a animé des soirées fort courues dans nombre de grandes salles, signé des chroniques dans le magazine Fugue et Le Défunt, ici Montréal, enregistré des CD, tourné une pub pour les chips Yum Yum, fondé son cabaret. Citation. J'avais un franc-parler, je faisais de la télé avec des looks bizarres. Ça a mené à certaines controverses. Des gens ne m'aimaient pas, d'autres me défendaient. Mais c'est de l'humour, du spectacle. Une fois que ça a été compris, beaucoup de gens ont adhéré en se disant « C'est cool, finalement, les drag queens. » À l'âge des bilans. Comme tout le monde, Mado vieillit. Mais pas au même rythme. Citation. Pendant 10 ans, elle disait qu'elle avait 29, puis 39. Là, elle dit qu'elle a 40, en argent américain. Fin de citation, rigole Luc, bien conscient que le comédien, lui, n'a pas le loisir de figer son âge. Alors qu'il approche la 60aine, il commence à ralentir, un peu, à se reposer, pas tant que ça, et à se consacrer aux nombreux projets qui lui tentent vraiment. Voilà un luxe qu'il n'a pas toujours eu. Citation. Avant, j'étais au cabaret Mado 5 soirs par semaine, mais là, je n'ai plus la santé ni l'âge pour ça. Il faut que je me repose. Je suis vieux, moi. J'aime ça rester à la maison avec mes chats et regarder la télé. Je n'ai pas fait ça jeune. Fin de citation. Luc Provost, qui a récemment été nommé officier de l'Ordre de Montréal, arrive à l'âge des bilans. Le premier a été fait en 2023, avec la publication de « Madographie » aux éditions La Presse. Citation. C'est beaucoup mon histoire. Comment j'ai travaillé Mado, comment je l'ai amenée là où elle est aujourd'hui. Fin de citation. Au départ, le plan était d'adapter le livre afin d'en faire un spectacle, mais, citation, si je suis Mado sur scène, je ne peux pas dire « Luc a fait ceci, puis cela ». Les gens veulent entendre Mado qui a vécu une histoire, pas Luc qui fait semblant. C'est son récit, ses expériences. Elle existe comme un personnage à part entière. Fin de citation. Ainsi est né le deuxième bilan, celui de la vraie fausse vie de la reine-mère des drag queens. Mado, la bitch joyeuse, est un spectacle de variété qui mêle humour et musique dans lequel elle parle de son enfance et de ses débuts comme artiste drag, raconte des anecdotes de shows et de voyages, parle de son rapport à la beauté et à la chirurgie plastique, d'hommes et de célibat. citation, « son monde est coloré, imagé, comique, mais ça reste toujours de bon goût, pas vulgaire. » Fin de citation. Évidemment, le bon goût a toujours été une chose relative, mais selon Luc, cette notion change beaucoup ces jours-ci, ce qui se reflète dans un humour un brin moins décapant. Adieu les bitcheries sur les vedettes, par exemple. N'empêche, il promet que Mado sera toujours une douce tannante ou une baveuse sympathique. N'en déplaise aux gens coincés. Le drag, cet art populaire. Sa nouvelle tournée se déploie alors que les drag queens connaissent un succès phénoménal, à l'image de la populaire télé-réalité RuPaul's Drag Race et de ses versions internationales, et des vedettes d'ici comme Rita Baga, Mona de Grenoble et Barbada de Barbade. Citation. Je sais qu'il y a des nouvelles qui ont la cote en ce moment. C'est normal et c'est correct. Je suis bien fière d'elles. Ellipse. J'ai donné un coup de pied dans la porte, elles l'ont défoncé, et puis maintenant, on est installé. Souligne Luc, ajoutant que c'est un bon moment pour aller visiter des régions qui n'avaient jamais vu Mado en show solo. Plus on voit de drag queen, plus on veut en voir. Pourquoi ne pas voir l'original? Fin de citation. Le rêve d'une vie. Professionnellement, Luc est quasi indissociable de Mado. Après tout, le comédien se consacre essentiellement à ce même personnage depuis 38 ans. A-t-il l'impression d'avoir fait le tour du jardin? Citation. Non, parce que je l'ai fait évoluer. J'ai eu des offres variées. Faire de la télé, ouvrir un cabaret, faire des spectacles à Paris. Chaque fois que je me suis dit que j'avais atteint le top de ce que je peux faire, j'ai reçu une offre intéressante. Ça m'a permis de ne pas m'ennuyer. Fin de citation. Il y a 2 ans, c'est Luc et non Mado qui a reçu une proposition extraordinaire, celle d'interpréter sur scène le rôle-titre de la pièce « Hosanna ou la Scheherazade des pauvres » dans une salle de la capitale nationale. Celui qui a étudié en théâtre à l'université avait ainsi la chance de jouer un personnage créé par son idole, Michel Tremblay. Ce « rêve d'une vie » aura une deuxième partie puisque la pièce sera jouée à nouveau vers la fin de l'année, cette fois à Montréal, avant de partir en tournée. Après tous ces projets, qui sait ce que réserve l'avenir? Le comédien ne ferme aucune porte, ni pour Luc ni pour Mado, se permettant même de rêver à de nouvelles performances de l'autre côté de l'Atlantique. D'ici là, on pourra toujours voir Mado à son cabaret. Lorsque Luc n'est pas à la maison avec ses chats, bien sûr. C'était « La vraie fausse vie de Mado Lamotte », un texte de Frédéric Charret, paru le 21 février 2025 dans « Virage ».